Il est directeur général d'Iliad et donc de Free. Maxime Lombardini est mon invité dans le 12-15. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié des résultats ce matin, de très bons résultats, avec des ambitions encore plus grandes, puisque vous avez déjà annoncé la couleur que vous comptiez doubler votre chiffre d'affaires d'ici 2015. Alors, il faut dire que vous avez devant vous beaucoup de projets. Vous avez déjà le lancement de votre box Révolution. Il y a la licence 4G, et puis la quatrième licence, et puis il y a le 4G. Doublement du chiffre d'affaires, vous pensez que vous allez arriver d'ici 5 ans donc ?
Vous avez tout dit pratiquement. Oui, effectivement, on a fait une bonne année 2010. Les chiffres sont excellents. On a un très bon début d'année avec la Freebox Révolution.
Vous avez des chiffres justement sur la Freebox Révolution ?
Je suis désolé, on n'en communique pas pour le moment. On est dans une concurrence assez vive, donc on essaye de rester discret. Mais ça démarre très bien. On a signé un accord d'itinérance avec Orange pour le mobile, qui est essentiel pour notre réussite. Et on a annoncé, effectivement, qu'on pensait pouvoir doubler de taille à l'horizon 2015. Et dans les télécoms, c'est assez rare de trouver un groupe qui a à la fois de la croissance, de la rentabilité et des projets.
Oui, et vous avez déjà un chiffre d'affaires qui a progressé d'un peu plus de 4% à 2 milliards d'euros et un bénéfice, lui, qui a explosé plus 79%. C'est dire s'il y a beaucoup d'ambition. En l'occurrence, on peut peut-être revenir un instant à cette déclaration de quelqu'un qui est en général assez secret, de Martin Bouygues. Martin Bouygues a dit que les conditions d'attribution de la licence 4G étaient cyniques, que l'État, s'il voulait obtenir le maximum de recettes, les dés étaient joués, en l'occurrence, puisque à ce moment-là, le plus riche était France Télécom. Quelle est votre position par rapport à ça? Et d'abord, est-ce que vous serez candidat?
Alors, on sera vraisemblablement candidat, puisqu'on a besoin effectivement de fréquences si on veut croître dans la durée. On n'en a pas besoin pour démarrer, mais dans la durée, oui. À votre question, Martin Bouygues a souvent été visionnaire en matière de fréquences. C'est lui déjà début des années 2000 qui avait dit « c'est une folie ». Donc, on ne connaît pas encore le détail des termes de l'appel à candidature, mais c'est important que tous les acteurs, tous les opérateurs mobiles puissent avoir accès à ces fréquences. Sans quoi il va y avoir une forme de retour en arrière qui n'est pas souhaitable. Donc il faut que l'État trouve un juste milieu entre tirer de l'argent de fréquence, c'est normal que si on occupe le domaine public, on le rémunère, mais ne pas handicaper pour autant les acteurs.
Mais quelle pourrait être la solution, à votre avis ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire on nous demande de couvrir le territoire très vite et aussi loin que possible. On nous demande d'investir dans la fibre très vite et aussi loin que possible. Nous, on doit bâtir le quatrième opérateur mobile. Et dans le même temps, il y a beaucoup de taxes. Il y a eu la TVA qui, avec un préavis de 3 mois, nous a impacté considérablement, nous et les autres acteurs. On nous demande de financer l'audiovisuel. On nous demande tellement de choses qu'à un moment, je crois qu'il faut choisir un peu les priorités. Vous évoquiez le rapport sur la contribution d'Internet à la croissance. On pense qu'on a une industrie qui mérite peut-être un peu plus que d'être strictement un payeur systématique chaque fois qu'il y a un problème. Donc il faut trouver un juste milieu. Ces fréquences, elles ont une valeur. Il faut trouver des modes d'attribution. Beaucoup d'autres pays d'Europe l'ont déjà fait, qui n'amènent pas qu'à maximiser la valeur payée par les opérateurs, mais que les engagements de couverture, le prix, les investissements soient raisonnables et que chacun des opérateurs, il y en a 4, puisse avoir accès à ces fréquences sans avoir à payer des prix fous.
Oui, donc c'est important ce que vous dites, Maxime Lombardini, c'est-à-dire que vous dites qu'il faudrait que ces licences 4G, quelque part, il y ait une répartition entre les 4 opérateurs.
Bon, c'est une règle qui est déjà dans le code qui régit les télécoms, c'est qu'il doit y avoir une forme d'équilibre dans la durée, dans les allocations de fréquences. Donc c'est même la mission du régulateur que de veiller à ça. Après, l'État a des besoins de court terme dans son budget, c'est une autre problématique tout à fait réelle. Trouver un juste milieu.
Oui, mais vous êtes bien placé pour savoir, puisque vous avez finalement obtenu cette quatrième licence d'opérateur mobile. Ça a été un très très long bras de fer pour Iliad et pour Free, donc ça a été difficile. Mais vous l'avez obtenu, 240 millions d'investissements pour l'instant. Et puis là, surtout, vous venez de sortir un contrat d'itinérance avec Orange. Pour vous, c'était fondamental. Est-ce que ça ne l'était pas aussi en termes de concurrence pour le groupe France Télécom?
Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, on construit un réseau. Le quatrième opérateur n'est pas un MVNO qui va s'installer sur le réseau d'un autre. On construit un réseau. Et quand on a 25% de population couverte avec notre réseau, ce qui devrait arriver début 2012, on a accès, pour transporter nos services, les appels de nos abonnés, au réseau d'Orange, dans le cadre d'un accord d'itinérance. L'intérêt pour nous, il est évident. L'intérêt pour Orange, je pense, c'est de se dire, dès lors qu'il y a un concurrent, mieux vaut faire du business avec lui. c'est un gros contrat avec des marges assez importantes, plutôt que de simplement le subir. Donc ça a été, je pense, une négociation qui peut-être a pris de court les autres opérateurs mobiles qui s'étaient dit « jamais on leur donnera, on va attendre le contentieux ».
Vous vous mettre dans un corner, donc vous estimez comme ça, vous êtes sorti du corner dans lequel vous étiez ?
On a été un peu aidé par la ville d'autorité de concurrence.
Oui, par l'ARCEP, qui vous a donné un sérieux coup de main même.
L'autorité de concurrence d'une part, l'ARCEP d'autre part. Et Orange, je pense, en stratégie industrielle, mais ils sont mieux placés que moi pour le dire, du considérer qu'un contrat qui peut représenter 1 milliard d'euros, par les temps qui courent où la croissance dans les télécoms n'est pas très forte, ça se regardait. En fin de course, on l'obtiendrait d'une manière ou d'une autre et qu'il valait mieux le négocier intelligemment plutôt que de se le faire imposer à terme.
Cet accord, il va rentrer en ligne de compte quand ?
Alors, il rentre en vigueur quand on ouvre le service. Oui. Et pour ouvrir le service...
Dès que vous allez ouvrir le service.
Mais il faut qu'on ait 25% de couverture avec nos propres antennes. Donc ça, c'est le travail qu'on fait depuis un an, qui est de négocier avec les copropriétés, les bailleurs, les collectivités locales pour pouvoir installer nos antennes. Et on devrait avoir 25% de couverture de la population avec nos antennes à nous, début 2012.
Et justement, est-ce que vous pouvez respecter ce timing ? Parce qu'on s'en souvient au moment de l'attribution de cette licence, il y a des opérateurs type Virgin, avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui disaient en tous les cas, c'est très difficile de déployer les antennes, parce qu'il y a tellement d'hostilité, notamment parfois dans les villes et d'associations de consommateurs. Pour l'instant, vous respectez votre timing ?
Oui, vous savez, dans ce projet de quatrième opérateur, on a entendu tellement de choses. D'abord, les opérateurs ont dit, il n'y aura pas de quatrième licence, elle est là. Ils ont dit Free n'aura pas la 3G, elle est là. Des candidats qui finalement n'ont pas déposé ont dit c'est impossible de déployer des antennes, on en déploie. Donc la réalité, c'est que c'est un projet qui avance et qu'on tiendra notre promesse.
On revient sur toutes ces questions, sur vos promesses dans un instant. On marque une pause, Maxime Lombardini, on se retrouve juste après. Mon invité donc dans le 12-15, Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad Free. On était sur tous vos projets, donc il y a cette licence 3G, licence 4G, et puis il y a cette licence sur le mobile. Juste, c'est 2012, quel est le timing exactement ? Vous pouvez nous le rappeler ?
On a pris un engagement dans notre licence de démarrer en janvier 2012.
1er janvier 2012.
C'est 2 ans après l'attribution, donc précisément c'est le 12 janvier. Après, on n'est pas dans une... Je ne suis pas sûr qu'on soit à ce point dans la rigueur des dates.
Le déploiement et la construction d'antennes
Ça, c'est en cours. Oui. On a aujourd'hui...
Il y a combien pour l'instant d'installer ?
Alors ça, c'est un chiffre qu'on ne donne pas. Mmh. En revanche, on peut vous dire qu'on a lancé la recherche de 5000 points hauts sur lesquels mettre des antennes il y a déjà une bonne année. Donc c'est un travail qui avance et qui a...
Pas de difficultés particulières, parce que là, vous m'étonnez quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des mouvements... Oui, on le disait, un petit peu d'hostilité par rapport au déploiement d'antennes.
Je ne veux pas vous dire que c'est facile. Ça prend du temps. C'est rare que ça échoue, mais ça prend du temps, donc il faut être transparent, expliquer. Ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que vous payez des loyers, donc c'est quelque chose qui fait partie finalement maintenant de la vie quotidienne, à la fois des copropriétés, des bailleurs, et puis des collectivités locales, qui d'une manière générale gèrent ça de façon très intelligente, enfin en facilitant une transparence, donc les habitants sont informés quand il y a une antenne qui arrive. Il y a beaucoup de mesures qui sont faites, qui montrent que les rayonnements sont finalement faibles, est plutôt plus faible que les autres fréquences qui nous environnent. Et après, on a des déploiements qui se passent normalement.
Cet accord d'itinérance que vous avez signé avec France Télécom, donc qui va vous permettre justement de devenir ce quatrième opérateur mobile, est-ce qu'il pourrait, il porte sur la 2G, sur la 3G, mais il pourrait porter sur la 4G, non ? Si jamais c'était France Télécom qui remportait cette licence.
Alors, on va être candidat, normalement, oui. Pour avoir des fréquences nous-mêmes, oui. Pour la 4G. Ce n'est pas tout de suite que le déploiement se transformera en services commerciaux 4G. Hein. On parle de quelque chose qui viendra dans plusieurs années. Ce n'est pas prévu à notre accord. Maintenant, rien n'interdit, le moment venu, si Orange en est d'accord, de l'élargir à la 4G. Mais notre vision des choses, c'est que dans les télécoms, il faut avoir son réseau. C'est probablement pour ça qu'on est l'un des seuls alternatifs à avoir survécu dans la durée. C'est qu'on a construit un réseau. On investit beaucoup aujourd'hui dans la fibre. Parce qu'on pourrait se dire, on va louer simplement la fibre des autres, mais dans la durée, ça ne fonctionne pas.
Vous avez dit que vous étiez un des opérateurs les moins endettés d'Europe, mais vous avez quand même une dette qui s'élève à 700 millions d'euros. Ça veut dire quand même que vous avez des investissements très très lourds en perspective, et surtout si vous êtes candidat, comme vous venez de nous confirmer, à la 4G.
Alors, on est un groupe qui a de la croissance. Et des projets. Donc, des projets de la croissance, ça veut dire qu'il faut investir. L'endettement, il est assez limité. Hein. Ça fait moins d'une année d'EBITDA, qui est le multiple généralement retenu. En 2010, je pense qu'on n'en est pas tous bien conscients aujourd'hui, chacun a publié ses chiffres. dans la fibre optique. C'est le plus petit acteur, en l'occurrence Free, qui a investi le plus. On a investi 240 millions d'euros dans la fibre optique, là où SFR a dû en mettre 120 ou quelque chose comme ça, et Orange 80. C'est des chiffres qui ont été publiés ces derniers jours. Donc, très clairement, on construit un actif, tout simplement parce que quand on a notre réseau, ça nous permet de faire les meilleurs prix pour nos abonnés. Et oui, on a beaucoup d'investissements, mais on a une activité de base, la DSL, qui génère des cash flows. On ne distribue pratiquement pas de dividendes, donc on réinvestit la trésorerie disponible. Et puis, on a des lignes de crédit pour faire ces quelques années où les investissements sont nombreux dans les box, dans la fibre et dans le mobile. Ouais. Mais c'est notre volonté et c'est comme ça qu'on est un opérateur télécom qui a de la croissance.
Sur cette box, hein, on a dit un petit mot au début de cet entretien. Maxime Lombardini, votre box V6 dite révolution, vous nous disiez ça marche, je ne voulais pas nous donner les chiffres, mais ça marche aussi bien que vos espérances parce qu'on dit qu'il y a eu beaucoup quand même de retard à l'allumage, j'ai envie de dire, de problèmes de service, ce qu'on reproche souvent à Free, du reste.
Alors, sur le succès commercial, je vais juste vous donner un indice. On a intégré les appels fixes vers mobile, qui jusque-là étaient facturés pratiquement 20 centimes la minute aux abonnés, le 14 décembre. Dans les jours qui ont suivi, nos concurrents ont dit « ça sert à rien, c'est pas une demande, c'est inutile ». Et puis, on a eu successivement les quatre opérateurs...
Je recevrai Stéphane Richard à ce même micro.
Voilà. Qui ont intégré les appels fixes vers mobile dans leur forfait. Ça veut dire que l'impact de l'arrivée de la Freebox Révolution sur le marché a été ressenti, parce qu'ils ne font pas ça par pure charité. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Il y a eu surtout un article un peu malveillant qui parlait d'une multitude de bugs. La réalité, c'est qu'il y en a très très peu. Très peu pour un produit aussi évolué. Et c'est des bugs qui ont été corrigés très rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bugs significatifs. Après... C'est un produit grand public sur lequel il peut toujours y avoir des
Au niveau du service, souvent, c'est ce qu'on reproche, notamment la difficulté d'avoir quelqu'un en ligne qui vous explique un peu pourquoi ça bug. Vous avez,
Alors, ça, c'est mesuré maintenant par le régulateur. Il y a tous les trimestres un sort de tableau de bord accessible à tout le monde qui montre que ce n'est pas la réalité. Après, chacun peut avoir une expérience difficile chez l'un ou chez l'autre. On a été élu service client de l'année. Après, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Chacun peut attribuer un prix. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, le service chez Free est déficient et on fait beaucoup de choses, notamment pour envoyer des techniciens à nous chez les abonnés. Quand ils ont un problème qu'on n'arrive pas à régler au téléphone, on a 800 techniciens qui sont sur le terrain. C'est des visites qui ne sont pas facturées. Hein. Vous avez un problème, on ne sait pas vous le régler, on envoie quelqu'un.
Ça sera juste un mot sur les offres commerciales. Ce que vous allez proposer, ça sera des offres quadruplées ou pas ?
Nous, on trouve que le quadruple play, c'est pas très joli.
Non, c'est pas très joli, mais bon.
C'est plus un maquillage de quelque chose qui est le prix du mobile est trop élevé. Donc nous, notre vision des choses, c'est qu'il faut surtout offrir du mobile moins cher et plus simple, avec plus de liberté, que vous ne soyez pas engagé 24 mois, obligé de fournir vos points, etc., pour avoir un nouveau téléphone. Donc notre vision à nous, c'est qu'il faut offrir le meilleur produit au meilleur prix sur le fixe, sur le mobile. Après, si on a un abonné qui souhaite prendre les deux chez nous, on pourra appeler ça quadruple play, mais ça ne nous paraît pas un progrès pour le consommateur.
D'accord, donc pas groupé obligatoirement en tous les cas, c'est ce que vous
voilà.
Merci beaucoup. Donc plein de projets, Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad et donc de Free. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.